Chapitre 2. Sur mes gardes, je me coule entre deux colonnes de caisse. En moi, la peur et l'envie disputent un match de championnat. Les deux équipes ont l'habitude de s'affronter, mais cette fois, c'est une sorte de finale. L'envie mène, mais le score est serré. La partie pourrait facilement basculer en faveur de la trouille, qui compte d'excellents supporters, comme les bruits bizarres ou les formes qui surgissent et semblent vouloir m'agripper. Pour assurer la victoire, j'allume ma lampe qui repousse la pénombre et, déjà, j'aperçois mon but. On va gagner. Quelles sont belles ces étagères gavées à ras-bord qui courent le long du mur. Je ne sais pas encore ce que je vais y trouver, mais j'ai la certitude de ne pas être déçu. C'est là que sont entreposés les vieux jouets de mon père, ainsi que ceux de mes cousins plus âgés. Un trésor à portée de main pour le jeune aventurier qui ose braver les interdits et les pièges. Un choix phénoménal, une opulence sur plusieurs couches, et souvent en bon état. Petite voiture, déguisement, jeux de construction, anciens jeux électroniques, dinette, circuit de course, train électrique, pistolets à véritables amorces dont certaines claquent encore, et même des jouets de tout petit avec lesquels on peut s'amuser sans se faire traiter de bébé. Mieux qu'un catalogue, un paradis intemporel, l'Eldorado des rêves d'enfants. Toutes les joies des Noëls de la famille rassemblées en un seul endroit qui n'attend que moi. J'en tremble d'excitation. Dans le faisceau lumineux, j'aperçois les couleurs vives d'un camion de pompier avec son chauffeur articulé qui sourit. Juste dessous, je crois deviner d'anciennes manettes de console cachées par une poupée. Avant d'atteindre le Graal, il faut néanmoins se méfier du bouquet de canne à pêche dont certaines sont encore équipées d'hameçons rouillés. Quelques contorsions et un léger détour finissent par m'amener devant les boîtes débordantes de merveilles. Mon cœur s'emballe. Mes mains effleurent, hésitent. Mes yeux dévorent. Tout à coup, sur le côté de l'étagère, en limite d'une zone plus obscure, un mouvement le long du montant métallique attire mon attention. Je devrais plutôt parler d'une sorte de vibration. Je n'ai pas peur des rongeurs et je suis prêt à les repousser pour protéger notre collection de jouets. Je braque ma lampe, mais je ne découvre qu'une petite masse blanche cotonneuse de la taille d'une grosse noix enserrée dans une toile d'araignée. C'est un cocon. Pourquoi s'agit-il ainsi? Je me penche et je distingue alors des dizaines, des centaines de minuscules araignées qui s'en échappent aussi vite qu'elles le peuvent. Dans toutes les directions, elles s'égaillent sur la toile, sur les montants, les étagères, se répandant, cavalant de toutes leurs pattes en s'éloignant du nid qui les a vues naître. Cette armée d'arachnides miniatures semble bien décidée à envahir le monde. J'imagine sans peine les hurlements qu'auraient poussé ma mère ou ma cousine Lou. Mais pour ma part, je ne recule pas. Je n'éprouve aucune crainte, aucun dégoût. Je suis hypnotisé par le spectacle, au point d'en oublier un instant pourquoi je suis venu ici. Je contemple les innombrables bestioles, si petites, si fragiles, qui toutes foncent avec la même énergie, mais chacune dans sa direction. Vers quoi court-elle avec une telle hâte? À moins qu'elle ne soit en train de fuir, qui a donné le départ de cet exode? La scène ressemble à un dernier jour d'école vu du ciel, lorsque les élèves se pressent à la sortie pour s'élancer sur leur propre chemin. Ces petites araignées sont-elles comme je l'étais, tristes de quitter ma bande et inquiets de passer chez les grands au collège? Certaines paraissent aller plus vite, quitte à marcher sur leurs semblables. D'autres se terrent dans le premier recoin venu. Il y en a qui cherchent à monter, d'autres à descendre. Que vont-elles devenir? Sans doute, plusieurs spécimens grandiront-ils magnifiquement au point de s'aventurer loin, tissant d'impressionnantes toiles jusque dans la maison, au risque de se prendre un coup de pantoufle si ma mère les découvre. D'autres se feront dévorer avant d'avoir réussi à sortir, peut-être même par des représentants de leur propre espèce. D'autres encore passeront toute leur vie dans ce hangar sans éprouver le besoin d'aller explorer d'horizons plus lointains. En les étudiant, si nombreuses, j'imagine leur possible. À mi-voix, je me surprends à leur souhaiter bonne chance. Même en tant qu'enfant de 11 ans, officiellement pas bien malin, je sais à propos de leur existence des choses qu'elles ne soupçonnent même pas. J'en connais plus qu'elles sur leur propre vie. Cela me chamboule. J'ai envie de les alerter, de leur confier ce qui les attend. Je pourrais apposer des petites affiches, comme au Far West, avec les portraits de ma mère et de ma cousine, façon bandit patibulaire, pour les avertir de s'en méfier. Mon premier élan serait de les aider. Mais comment le pourrais-je? Leur vulnérabilité me touche et des questions me viennent. Si elles se recroisent, se reconnaîtront-elles? Se souviendront-elles d'avoir grandi ensemble? Se combattront-elles par pur instinct de survie? Ne seraient-elles pas plus avisées de faire équipe? C'est à ce moment précis, devant la variété des réponses, que m'est clairement apparu le sens du mot « destin ». Pour ces petites créatures, il se jouait là, devant moi, dans toute sa diversité. Tel un géant, je les contemplais se jetant dans la première épreuve imposée par la nature. Même les araignées ont une destinée, et elle est différente pour chacune. Cette prise de conscience m'a profondément ému. L'expérience a résonné au plus profond de moi. Une image forte s'est gravée dans ma mémoire, fondatrice, donnant naissance à un sentiment qui a surgi des profondeurs de mon être pour exploser à la surface des flots comme une orque jaillissant hors de l'eau. J'ai immédiatement su que cette scène allait teinter toute ma façon de considérer l'existence. C'est probablement ce soir-là qu'est née ma volonté de comprendre ce que l'on désigne comme la chance. Finalement, par la suite, j'ai toujours essayé de rationaliser le hasard, de le contenir, de le ramener à des facteurs quantifiables dont l'évaluation permet presque de prévoir l'avenir. Je préfère être honnête, ça ne marche pas souvent. En fait, jamais. Mais bien avant d'en arriver là, il y a eu ces araignées minuscules qui couraient devant moi. Peut-être qu'un Dieu, bien plus grand et plus sage que nous, nous observe depuis le ciel lorsque nous quittons le cocon protecteur de l'école en nous dispersant comme ces petites bêtes. Peut-être nous souhaite-t-il lui aussi bonne fortune, sachant les risques et les opportunités que nous allons rencontrer sur nos routes. J'aimerais tellement découvrir qu'il existe dans l'univers quelqu'un qui comprend cet extraordinaire foutoir dans lequel nous nous débattons. Se pourrait-il qu'attendri par notre misérable condition, il nous fasse cadeau de 2 ou 3 conseils, au moins les basiques? Ne pas admirer un plafond quand on approche d'un escalier, ne pas tenter de caresser des animaux sauvages sous prétexte qu'ils sont mignons, ne jamais croire que parce que votre tête passe dans un sens, elle repassera dans l'autre. Et, sans doute, l'un des plus importants de tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un, même gentil, vous dit que la planche est solide, qu'elle l'est. Ce soir-là, ces petites créatures m'ont appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Quelques mois plus tard, le destin m'a offert un nouvel aperçu de ce qu'il était, un aperçu bien plus personnel. C'était la première fois qu'un homme me prenait dans ses bras depuis que je n'étais plus un bébé. Il s'agissait de mon grand-père, pour m'annoncer que mon père, lui, n'avait pas fait semblant de conduire. et que son accident n'avait rien d'un jeu. Sur le coup, je n'ai rien compris. Mon petit frère non plus. Nous avons simplement constaté que notre vie avait changé brutalement. Papa ne rentrait plus et maman n'allait pas bien. Après l'avoir vu beaucoup pleurer, on l'a vue de moins en moins. Elle a très mal vécu son veuvage et elle a fini par tout laisser tomber. Surtout nous. Mais ça, on s'en est rendu compte plus tard. C'est ainsi que mon frère et moi avons été élevés par nos grands-parents. Le tétanos n'était plus notre principal problème. Le soir où j'ai réalisé que je ne reverrai jamais papa, j'ai immédiatement repensé à ces petites araignées qui cavalaient dans tous les sens. Tout à coup, je me suis senti comme l'une d'elles et je venais de me prendre un coup de chausson. Mais comme l'aurait fait n'importe laquelle d'entre elles, j'ai continué à courir pour survivre en y mettant toute mon énergie. Par chance, j'ai survécu. J'ai grandi et je n'ai pas eu à me plaindre de mon sort. Dans notre pays, on a coutume de dire « c'est la vie ». C'est même l'une des phrases les plus célèbres qui soient dans le monde et partout on la cite dans notre langue. Une façon à la fois fataliste et ironique d'exprimer le fait que l'on ne contrôle rien. Une philosophie. C'est sans doute une expression un peu idiote, mais je n'en ai pas trouvé de meilleure pour résumer tout ce qui peut nous arriver durant notre passage sur Terre. Car l'aventure n'est simple pour personne. Je regarde autour de moi et je constate que chacun, à un moment ou à un autre, avance contre le vent, traîne son boulet ou porte son fardeau. Il y en a même qui cumulent. Les promotions, les réductions et les avantages ne peuvent pas s'additionner. Les emmerdes, si. Sans limite. Depuis ce jour tragique, plus aucun homme ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter ma vie. Les insectes ne sont pas les seuls à se prendre des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand.